Phil PM Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Salut Christian Page.
Salut Bernard.
Alors, mythes et complots, l'insolite. Là, on va parler de la mort pour commencer.
C'est un sujet que je déteste, la mort.
Moi, c'est vrai?
Moi, je suis un peu obsédé par ça, par l'idée de la mort. Il n'y a pas une journée
où tu y penses
pas. Je ne pense pas à ça.
Donc, tu la crains?
Oui, absolument. C'est une espèce d'obsession, cette idée-là de la mort. Et j'essaie d'en parler le moins souvent parce que je deviens presque paranoïaque.
OK, mais d'en parler, ça te fait peut-être du bien aussi?
Non, je crois pas. Parce que ça ajoute à mon
à ton
niveau
angoisse,
de stress.
Ton ouais, niveau d'angoisse.
Absolument.
OK.
Bon, mais... quand je te dis la mort, c'est agréable.
C'est ça ton sujet.
C'est le titre.
La mort, c'est agréable.
Voilà. Mais en fait, je reprends le titre d'une nouvelle qui a été publiée dans le périodique scientifique PLOS. Et il s'agit d'une étude qui a été menée par des chercheurs de la Western University, ça se trouve à London, en Ontario, et des gens de l'Université de Liège, en Belgique. Ce qu'ils ont fait, ils ont mené une énième, j'allais dire une étude, mais c'est une énième étude sur les expériences de mort imminente.
Oui.
Donc, pour les gens qui nous écoutent, on rappelle un peu ce que c'est ces expériences. Ce sont des expériences qui se produisent aux frontières de la mort, où des gens, alors qu'ils sont presque au point de décéder, vont vivre une expérience un peu mystique où ils ont l'impression de sortir de leur corps. Souvent, c'est accompagné d'une vision à travers un tunnel, de la lumière. Ils vont rencontrer durant cette expérience des gens qui sont décédés, qu'ils ont côtoyés. Donc, c'est l'expérience de mort imminente.
Mais ils reviennent.
Ils reviennent.
Oui, donc, pour raconter.
Ils peuvent témoigner.
Voilà.
On dit expérience de mort imminente, mais il faut quand même préciser que la mort est un processus. Je dirais plutôt, c'est un processus avorté. Hein. Quand on décède, à moins de mourir de mort violente, subitement, mais généralement, lorsque l'on décède, par exemple, de maladie, les organes commencent à cessent de fonctionner, le cerveau commence à s'arrêter. Donc, on comprend qu'on a un processus là, qui peut durer quelques secondes, mais c'est un espèce de processus avorté ici dans le cas de la mort imminente. Le processus a commencé, mais on a réussi à l'inverser.
D'accord.
Donc, ce que l'on fait, on a pris des gens, on a pris 150... Généralement, quand les gens racontaient leurs expériences de mort imminente, les études qui avaient été menées dans le passé, les gens devaient remplir une espèce de questionnaire. Avez-vous vécu ceci, cela, bon, etc. Et les gens, généralement, dans les médias qui parlaient de ces expériences, ils en parlaient de manière plutôt objective, c'est-à-dire que l'impact que l'expérience a eu sur leur vie est plutôt bénéfique, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus la mort de la même façon, ils sont beaucoup moins matérialistes, par exemple, ou carriéristes qu'ils l'ont été dans le passé, donc ils ont développé...
Ça les a transformés.
Ça les a transformés. C'est une expérience qui est transcendante.
Mm-hmm.
Mais ce que cette étude, l'étude qu'on a fait ici, on a pris les gens et on leur a demandé de raconter leur expérience dans leurs mots. Et ensuite, on a utilisé l'intelligence artificielle qui a fait une analyse des textes pour essayer de faire une synthèse, en fait, des mots. Et ça s'est fait de manière tout à fait... Tu comprends? Le chercheur qui croit aux expériences de mort imminente ou qui essaie de trouver là-dedans une sorte de modèle... va manquer d'objectivité. Ici, en utilisant de l'intelligence artificielle, on est complètement... c'est complètement neutre comme information.
Mais je trouve ça très intéressant. Donc, tu laisses témoigner...
La personne.
L'algorithme, ou oui, on peut dire, l'algorithme, va comme faire des interrelations et va aller chercher, dans le fond, les mots, par exemple, qui sont le plus souvent utilisés par les personnes pour, dans le fond, en arriver à une sorte de portrait objectif.
Tout compris, Bernard. On appelle ça du text mining, de la fouille de texte.
Oui.
Donc, on a pris 158 personnes, sans les presser, utilisez le nombre de mots que vous voulez, racontez-nous votre expérience.
Oui.
Et là, on a fait cette analyse-là et on découvre, en fait, que l'expérience, pas simplement sur l'impact qu'elle a dans la vie des gens, mais réellement au niveau de l'expérience vécue, en fait, seulement 2% des gens qui ont raconté leur expérience ont utilisé des termes majoritairement négatifs pour la décrire, comme la peur ou la mort, des mots qui revenaient.
Mm-hmm.
Mais pour 98% des gens, au-delà de la souffrance,
oui,
l'expérience a été excessivement agréable.
Wow!
Donc,
Ça, c'est quelque chose, là.
Absolument. Donc,
parce que c'est bon pour toi, là. Toi qui as besoin d'être réconcilié.
Je vais lire l'étude encore deux, trois fois pour être bien certain. Mais tu vois, donc l'expérience elle-même, au-delà de la souffrance, l'expérience psychologique a été agréable. Et là, on a fait l'étude avec 158 personnes. Alors, encore une fois, une félicitation aux gens de l'Université de London, de la Western University à London, en Ontario, et ceux de Liège. Parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui sont souvent très marginaux et il est difficile d'avoir un point de vue objectif et critique par rapport à ces expériences-là. Parce que bien souvent, elles sont menées par des chercheurs, je ne dis pas qu'ils sont pas qu'ils ne sont pas compétents, mais souvent, ce sont des chercheurs qui ont déjà un parti pris par rapport à l'expérience. Alors qu'ici, ça s'est fait de manière tout à fait neutre. On a laissé, en fait, l'intelligence artificielle décanter les textes de ces expérienceurs, pour utiliser le nom qu'utilisent les chercheurs pour parler de ces gens-là.
Très bien, intéressant. Parle-nous des jeunes et des fake news. Ah, ça, ça sort un peu de ton carré de sable habituel, ça.
Oui, mais en fait, c'est oui et non. Je te dirais, Bernard, j'ai développé une conférence que je présente à l'occasion dans les écoles au niveau secondaire, pour voir un peu comment les jeunes adhèrent à des théories du complot et comment les jeunes adhèrent facilement aux croyances surnaturelles. Et ce qui m'a frappé, en fait, c'est que les jeunes ont rarement les outils intellectuels pour bien décanter l'information. Et cette fois, c'est l'Université Stanford qui vient un peu ajouter de l'eau au moulin à mon propos, en disant qu'ils ont mené une expérience. En fait, ils ont fait 6 types d'expériences différentes. Ils ont utilisé 3400 étudiants de niveau. Eux autres, c'est le high school, là, c'est notre niveau secondaire. Ils ont mené cette expérience-là pour voir de quelle façon les jeunes arriveraient à décanter le fake news. Bon, je te donne deux exemples qu'ils ont utilisés. Ils ont pris un site Internet qui était plutôt en lien avec l'industrie pétrolifère, pardon. Et la nouvelle, on parlait justement de la pollution. Puis on disait que finalement, il n'y avait peut-être pas tant de réchauffement de la planète avec les gaz à effet de serre.
Donc, un discours climato-sceptique.
Un discours climato-sceptique sur un site qui généralement donne des informations plutôt favorables, en fait, qui est en lien avec l'industrie pétrolifère. Les jeunes ont été incapables de voir le lien. Donc, ils ont lu l'information et ils y ont cru, sans même se poser la question, mais qui est le propagandiste de cette information-là? Et là, tu t'aperçois que le site Internet, c'est le site de Exxon. Mais si Exxon te dit que le pétrole est bon...
Et ne contribue pas au changement climatique,
tu dois te poser une question. Donc, les jeunes ont été incapables de voir ça. On les a montré également des images relativement floues, tournées par des espèces de caméras de sécurité, où on voyait des gens jeter des bulletins de vote, plusieurs bulletins de vote dans des urnes. Et là, on a dit aux jeunes, est-ce que selon vous, ces images-là montrent qu'il y a eu une fraude aux élections présidentielles de 2016?
Dis-moi qui.
Et là, les jeunes ont répondu oui.
Ah ben là, c'est rassurant.
Oui, mais en réalité, ils ne se sont pas posé la question. Ces images-là, en fait, avaient été tournées en Russie. Donc, les jeunes ont accepté immédiatement l'information qui leur était proposée en disant, voilà, il y a eu une fraude.
Parce qu'ils voyaient l'image.
Parce qu'ils voyaient l'image. Et là, le commentaire qui allait avec l'image, c'est une fraude dans les élections présidentielles américaines. Les jeunes ne se sont pas posé la question de savoir d'où viennent ces images-là, qui les a tournées, est-ce que ça a vraiment été tourné aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, ils ont adhéré immédiatement à ça. En fait, 90 % des étudiants ont échoué à l'un ou l'autre des 6 tests.
OK, ils ont cru que ça se passait aux États-Unis.
Oui, absolument.
Le bourrage d'urne.
Oui.
Sans se poser de questions.
Sans se poser de questions.
Ah non, ça, c'est pas rassurant.
90 % des étudiants qui ont fait l'objet de cette étude ont échoué à l'un ou l'autre des tests menés par l'Université Stanford. L'Université Stanford n'accuse pas, en fait, ne pointe pas du doigt les jeunes, mais elle pointe du doigt le système d'éducation qui, en fait, ne développe pas et sans, je ne peux que le confirmer, le système d'éducation qui tarde à développer chez les jeunes des outils intellectuels pour faire le tri entre une vraie nouvelle, une fausse nouvelle ou du n'importe quoi.
Peut-être que dans le cours d'éthique, le nouveau cours d'éthique là, qu'ils vont créer là, pour remplacer éthique et culture religieuse, une espèce de cours sur la citoyenneté, peut-être qu'il pourrait y avoir un élément là-dessus. Comment développer l'esprit critique
Absolument.
Par rapport à l'information qui se retrouve sur les réseaux sociaux?
Moi, qu'un exemple, par exemple, dans ma conférence, je présente aux jeunes, je dis, quand vous lisez un article où il y a une multiplication de pronoms indéfinis, hein, des scientifiques disent, on prétend que, des experts racontent, posez-vous la question, qui sont ces experts, ces scientifiques? S'il n'y a pas de nom rattaché à ça, dites-vous que c'est probablement une fausse nouvelle.
Ou à tout le moins, posez-vous la question.
Absolument.
Allez contre-vérifier.
Absolument.
Christian Page, très bien, très bien. Merci. On se reparle la semaine prochaine.
La semaine prochaine, absolument.
Voilà, on continue évidemment demain, hein, notre dernière émission de la semaine. On fera le point sur la météo à ce moment-là, en temps réel. C'est Patrick Lagacé qui s'amène. Ciao tout le monde.